15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bienvenue dans Sans Rendez-vous. Tout l'été, vous écoutez le meilleur de votre émission Bien-être et Santé. Une émission aujourd'hui consacrée aux relations parents-ados parfois difficiles. Comment gérer les conflits? La psychothérapeute Isabelle Filioza vous donnera des clés de parentalité positive. Mais d'abord, ouvrons notre premier dossier sur le maquillage permanent. Pour se sentir mieux dans sa peau, le maquillage permanent qui fait aussi des miracles sur les personnes avec ou après un cancer. Pour en parler, retrouvons Mélanie Gomez avec son invitée Maude Ravier, esthéticienne et fondatrice de Maude Dermo Esthétique. 15h-16h, vous écoutez Sans Rendez-vous sur Europe 1.
15h-16h,
Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Maude Ravier.
Bonjour Mélanie.
Alors, ravie de vous recevoir sur ce plateau. Pour ceux qui l'ignorent, peut-être on va commencer quand même par la base. Qu'est-ce que c'est le maquillage permanent? Est-ce que c'est comme le tatouage? C'est de l'encre forcément?
Tout à fait. Le maquillage permanent, en fait, on introduit à l'aide d'une aiguille très fine et stérile, bien sûr, un pigment sur la couche superficielle de la peau.
C'est-à-dire, alors superficielle, vous allez à quelle profondeur à peu près?
On va généralement à 0,8. Il ne faut vraiment pas dépasser le début du derme, parce qu'après, ça pourrait faire des trop gros dommages sur la peau.
D'accord. Depuis combien de temps ça existe, le maquillage permanent? Moi, j'ai des souvenirs, un peu quand j'étais plus jeune, de choses un peu ratées.
Oui, tout à fait.
Des contours de lèvres énormes, qui faisaient pas très classe d'ailleurs.
Alors moi, quand j'ai commencé, il y a à peu près 20 ans, effectivement, j'ai voulu apprendre parce que j'étais déjà très artiste dans l'âme et j'aimais beaucoup tout ce qui était tatouage, etc. Et j'ai donc appris le maquillage permanent. Mais je refusais les contours marrons et les espèces
affreux.
De sourcils de marqueurs comme on pouvait faire. Donc j'ai mis beaucoup de temps à faire ma place parce que moi, je voulais vraiment des choses qui sublimait la femme et en aucun cas qui peinturlurait et qui déguisait la femme.
Ouais, donc, ça avait un côté un peu vulgaire même, c'était moche. Hein,
c'était
pas joli,
très laid. Ouais. Et puis les pigments viraient beaucoup, on s'est retrouvé avec des sourcils orange, rose,
ça
des contours de lèvres gris.
Ouais.
Non, c'était pas joujou, hein. Fallait y croire à l'époque. Vraiment.
Bon, heureusement, vous êtes arrivé, Jimmy.
Maquillage permanent, du coup, c'est permanent et donc ça dure toute la vie en fait?
Alors, pas du tout, parce qu'en France, et heureusement d'ailleurs, on n'a absolument pas le droit d'utiliser des pigments de tatoueur pour des raisons diverses, comme les métaux lourds, etc. Nous, on utilise des pigments qui sont dits comestibles par la peau. C'est-à-dire que vous devez refaire des retouches tous les 12-18 mois. Et puis, si jamais vous ne faites pas de retouches, le maquillage permanent va s'estomper. Mais quand j'ai commencé, on devait appeler ça maquillage permanent. Puis on nous a dit c'est mensonger parce que ça s'estompe. Donc, vous devrez appeler ça maquillage semi-permanent. Et puis, quelques années après, on nous a dit bah, finalement, ça sera maquillage permanent parce qu'il restera toujours des traces de pigments dans la peau. Donc, c'est mensonger.
D'accord.
Donc, on n'a pas le droit de dire semi-permanent. C'est vraiment du maquillage permanent.
D'accord, mais qui ne reste pas toute
mais
la vie.
Mais qui ne reste pas.
Mais on
exactement.
L'a compris. On peut commencer à partir de quel âge les plus jeunes clients ou clients que vous ayez je veux dire, est-ce qu'on peut le faire chez des enfants, par exemple?
Alors, pour des raisons esthétiques, une jeune fille qui va venir, si elle a 18 ans, que les parents sont d'accord, et puis de toute façon, elle est majeure, on lui fera avec grand plaisir, mais toujours avec une charte de naturel. Moi, dans mes espaces beauté, je refuse les choses qui sont trop marquées. Maintenant, on accepte aussi des enfants quand ce sont derrière des fentes labiales, des brûlures.
Pour réparer vraiment un préjudice
esthétique.
Oui, on a
vraiment des enfants avec des pelades. Enfin, on a toutes sortes de... Exactement,
et là, bien sûr, ce sont les parents qui vous les amènent.
Tout à fait.
Mais on
demande toujours, bien évidemment, l'accord et la présence des parents et l'autorisation du médecin ou du chirurgien qui est intervenu sur le jeune patient.
Alors, Maude, d'abord, une petite précision. On peut pratiquer le maquillage permanent. Qui peut le pratiquer finalement? Est-ce qu'il faut un diplôme? Ou en tout cas, si on souhaite essayer, vers qui vaut mieux s'orienter?
Alors la question, c'est la plus importante, c'est celle-là. Tout simplement parce qu'en France, il faut savoir que vous n'avez absolument aucun diplôme obligatoire pour pratiquer le maquillage permanent. Le seul diplôme qui est obligatoire, c'est un diplôme qui s'appelle hygiène et salubrité, qui se passe sur 3 jours. Mais il faut savoir qu'une personne qui n'a pas de talent artistique, qui n'a pas de base de maquillage, qui n'a pas fait d'études d'esthétique...
Jimmy
peut...
pourrait s'installer.
Mais
là,
oui. Jimmy peut faire... Alors bon, moi, Jimmy peut faire concurrence.
C'est ça.
Et le problème, c'est que vous pouvez acheter n'importe quelle machine sur n'importe quel site internet à moindre coût. On vous dit que les aiguilles sont stériles parce que c'est juste marqué dessus, mais qui le prouve? Vous achetez n'importe quel matériel, c'est pas bon. La seule chose qui est obligatoire, c'est hygiène et salubrité et des pigments aux normes CE.
D'accord.
Voilà,
mais
c'est un drame.
On choisit un bon...
Il faut veiller déjà à absolument qu'elle ait un local à elle, avec des normes qui sont très strictes pour l'hygiène. En aucun cas, vous devez faire ça chez vous, ou tout simplement au domicile de la pseudo-technicienne. Et puis, bien évidemment, voir des photos avant, après, le bouche à oreille, s'assurer qu'elle soit bien déclarée, qu'elle ait son assurance, qu'elle ait une collecte d'asserie, qu'on vienne lui chercher ses déchets mousse, ses aiguilles. Enfin, c'est un peu comme une infirmière, on ne va pas s'amuser à aller se faire une prise de sang chez n'importe qui. Il y a une effraction cutanée, donc il faut faire attention.
Jimmy ?
On va commencer du coup par ce qui se fait pour, de façon durable, le maquillage au niveau des lèvres. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites comme un rouge à lèvres en fait, permanent ?
Alors rouge à lèvres, j'aime pas trop dire ça. Bien évidemment, de temps en temps, on me demande du rouge à lèvres, mais encore une fois, je prône le naturel. Ce que j'aime, c'est sublimer. Donc j'ai mis en place des techniques comme la Candy Lips ou la Magic Lips. Ce sont des dégradés de plusieurs couleurs, par exemple pour la Candy Lips, qui vont donner du volume à la lèvre. S'il y a des dissymétries, on peut venir retravailler, pareil, les dissymétries.
C'est ce
les
que
volumes.
Vous avez sur votre bouche, parce que je regarde depuis tout
oui,
à l'heure.
Oui, tout
c'est
à
incroyable.
Fait.
C'est incroyable, on dirait que vous avez mis un super joli gloss.
Voilà, ça fait
mais
un petit
fait,
effet joli lèvre, mais
c'est
ça ne fait pas
pour ceux qui ont la vidéo,
dès
je vous
matin.
Invite vraiment à les regarder, elle a une bouche magnifique.
Ah, c'est gentil, merci. Non, vraiment, les bouches doivent être, encore une fois, sublimées, mises en valeur, mais il faut que vous puissiez vous réveiller, aller au sport, aller à la campagne, vous promener sans avoir l'air d'être un camion volé.
Mais on peut choisir un peu des teintes différentes. Vous avez
alors
des...
on a plus de 50 couleurs. Après on fait des mélanges. Nous sommes des réels artistes, c'est-à-dire que nous avons une palette incroyable de couleurs. On vous propose et on travaille avec vous la forme, la couleur. On parle vraiment, au moins on fait un diagnostic d'une demi-heure avant pour bien comprendre la cliente et la psychologie aussi de la cliente. Parce que souvent, la cliente veut quelque chose, mais ça ne lui irait pas, elle ne pourrait pas l'assumer. On a des questions aussi qu'on pose avant de commencer en disant, est-ce que vous allez assumer si votre belle-mère vous réveille un matin et vous allez à la plage, vous êtes emparée ou qu'elle vous dit, mais qu'est-ce que tu as fait à tes lèvres ? T'es maquillée, il est 7h. Voilà. Est-ce qu'on assume, est-ce qu'on n'assume pas ?
Et là,
tout de suite,
je
vais jusqu'au bout de la psychologie. Toutes mes filles sont formées à la morphologie du visage aussi, c'est très important.
C'est de l'intérêt d'avoir des vrais professionnels.
Et
Jimmy ?
Du coup, la séance dure combien de temps ? Est-ce que c'est douloureux comme un tatouage ?
Alors, la séance dure à peu près 1h30. Une retouche est nécessaire 3 semaines à 1 mois après. Bien évidemment, ce n'est pas très agréable, je ne peux pas vous dire l'inverse. Mais,
t'as fait aussi mal qu'un tatouage, par exemple ?
Le tatouage corporel, ça dépend d'où il est placé, mais c'est pas forcément très douloureux. Et après, ça dépend de chaque cliente. Chaque cliente a vraiment une sensibilité bien à elle. Mais bien évidemment, c'est pas un massage. Hein.
Oui, c'est ça. Mais c'est pas non plus, on va pas pleurer. Quoi.
J'ai encore jamais de clientes qui sont parties en plein milieu, par exemple.
Ça va. Donc elles vont au bout. Le résultat, il est immédiat ou pas quand vous nous posez c'est pas ce rouge à lèvres. Comment vous dites, vous
C'est le Candy Lips, c'est le Magic Lips, c'est un embellissement de la bouche.
Voilà, cet embellissement de la bouche, il est immédiat. Je sors de chez vous et ça y est, j'ai mon embellissement qui est là ?
Alors non, parce qu'on travaille sur une muqueuse et la muqueuse est assez réactive, c'est-à-dire que vous allez avoir des rougeurs, des petits gonflements, mais qui vont durer 24 à 48 heures, grand maximum. Au bout de 3-4 jours, vous allez perdre 30 à 40% de l'intensité et on va dire que la parfaite cicatrisation sera entre 3 semaines et 1 mois.
Rapidement, le coût pour les lèvres en tout cas ?
Entre 300 et 500 euros, ça dépend des espaces et des instituts dans lesquels vous le faites.
Maud Ravy, on va continuer cette discussion
avec
passionnante
plaisir.
Juste après. Vous restez avec nous.
Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, c'est Maud Ravy. Elle est esthéticienne et fondatrice de Maud Dermo Esthétique. Alors, on vous dit tout sur les techniques de maquillage permanent avec elle. Maud, on a parlé de ce que vous pouviez faire pour nous donner des lèvres plus pulpeuses, un peu colorées. Je crois que vous pouvez aussi faire des choses pour ceux qui manquent un peu de cheveux. Expliquez-nous.
Tout à fait. Ça s'appelle la tricopigmentation. C'est une technique absolument révolutionnaire. À chaque fois, j'appelle ça des techniques révolutionnaires dès qu'on peut toucher au côté psychologique et au complexe d'un homme ou d'une femme. Encore une fois, le côté coquet, on peut s'en accommoder, c'est de la coquetterie, alors que vraiment le côté life repair, c'est génial. Donc je développe la tricopigmentation. Pour un homme, ça va être une calvitie, ça va être une cicatrice de greffe, où là on va venir corriger, ça peut être une cicatrice de tumeur, une opération. Et pour une femme, alors là, on rentre dans le coquet, mais on rentre aussi dans le complexe. Une femme qui perd beaucoup ses cheveux, c'est une femme qui ne peut pas se mettre de dos dans un restaurant parce qu'elle a peur qu'on voit que ça. C'est une femme qui ne peut pas aller à la piscine, à la plage, parce que sinon elle se met la poudre. Vous savez, il y a des poudres qu'on peut mettre sur le cuir chevelu pour cacher un peu la brillance du crâne. Donc c'est venir mettre des petits points de pigment, toujours à l'aide d'une aiguille et de pigments couleur du cheveu, sur le crâne, sur le cuir chevelu, pour donner une naissance, une impression de naissance de cheveux.
Et ça donne vraiment un effet naturel. Quel est le niveau de satisfaction ?
Le niveau de satisfaction, on va dire qu'on le voit quand on voit les femmes qui, au bout de 3-4 séances, me disent « mais c'est dingue, je ne mets plus de poudre, je vais plus faire le brushing 3 fois par semaine pour essayer de donner du volume à mes cheveux. Je mets plus... » La satisfaction, j'ai envie de dire, à limite à 100%. Hein.
Ouais. Même chose pour les hommes qui ont la calvitie, le début de calvitie un peu comme Zidane, à l'arrière du crâne. Bon, Zidane, c'est sexy, mais Il faut
faire attention. Si on est sur une calvitie naissante, ne faisons pas n'importe quoi. Et ça encore, c'est hyper intéressant d'en parler aujourd'hui avec vous. Ne faisons pas n'importe quoi, parce que si jamais vous vous retrouvez avec une calvitie complète après 10 ans ou 15 ans, vous vous retrouvez avec des petits points dans le cuir chevelu, alors que vous, bah, finalement, vous auriez tout à fait assumé à 50-60 ans d'avoir une calvitie. Donc ne faisons pas n'importe quoi. Il faut absolument vérifier que la calvitie soit héréditaire. Donc on fait attention à comment est le papa, comment sont les
gens. Vous prenez quand même beaucoup de précautions avant de pratiquer le maquillage permanent.
Mais complètement, n'oublions pas qu'on fait quand même, on met du pigment dans la peau du client. Donc même si ça finit par s'estomper, on est responsable de ce que le client ou la cliente peut subir dans les années à venir. On ne peut pas s'occuper maintenant de la cliente.
Vous anticipez tout, vous anticipez comment il va vieillir.
Bah, je ne pourrais pas me regarder dans une glace et je ne pourrais pas être là et je ne pourrais pas monter tout ce que je monte si je me disais, allez, je lui fais et puis dans 2-3 ans, ça ne sera plus mon client, on verra. Non, je ne peux pas. Pas possible.
Des pigments sur le crâne, par exemple, pour une femme qui a effectivement à l'arrière, il manque des cheveux, combien ça coûterait à peu près la séance là ?
Alors, malheureusement, j'ai bien envie de dire malheureusement, ce sont des séances qui coûtent assez cher, tout simplement parce que ça prend des après-midi entières.
C'est normal,
voilà.
Bien sûr.
Mais encore une fois, ce sont des séances qui se refont tous les 3-4 ans et généralement, il faut compter 500 euros la zone. 500 euros la zone, c'est vous écartez la main, c'est à peu près 10 cm carrés.
C'est une zone, oui.
Voilà, et vous faites généralement une ou deux séances pour camoufler ces zones-là.
Enfin, ça vaut le coup, effectivement. Si en plus, on ne le refait pas tous les ans, c'est tous les 3-4 ans.
Non, ça vaut le coup. Ouais. C'est moins cher qu'une greffe.
Pour avoir moins de complexes, oui, effectivement. Et c'est moins cher qu'une greffe. Vous prenez aussi en charge beaucoup de patientes, je dis patientes, mais d'ailleurs, il y a peut-être des hommes aussi, dans le cadre du cancer, du pendant le cancer et après le cancer. Pendant le cancer, notamment, ce qui est des sourcils. Pour les femmes qui font, par exemple, des chimiothérapies, on perd ses sourcils. Là, vous pouvez proposer des choses très intéressantes.
Des choses qui sont assez incroyables. C'est-à-dire que la cliente m'appelle en me disant, Maud, j'ai une chimio qui commence dans 10-15 jours, qu'est-ce que je peux faire? Alors là, j'ai dit vite, il faut venir parce qu'en fait, je vais me mettre sur vos sourcils et je vais dessiner des poils le long de vos propres poils. C'est-à-dire que personne ne pourra imaginer que vous avez du tatouage et vous n'allez pas perdre votre identité visuelle. On sait très bien que dans la maladie, le côté psychologique, je ne pourrais pas dire fait 50-60% parce que ça ne serait pas bien vis-à-vis des cancérologues et tous les corps médicaux qui se battent pour ça. Mais je peux vous assurer que quand on discute avec des femmes, on peut se rendre compte que le côté psychologique est assez incroyable pour la guérison. Donc
il faut le faire un peu avant.
Si on le fait avant, je vais venir vraiment me caler à ses propres sourcils, encore une fois, pour ne pas caler de changement. Si on le fait pendant, toujours avec l'autorisation du cancérologue, je vais faire au mieux. C'est-à-dire que je vais aussi
travailler... Vous
demandez
l'avis au cancérologue, c'est bien ça aussi, quand même. Parce qu'il y a d'autres professionnels qui ne le font pas,
non,
je crois.
Non, il faut, parce que pendant la chimiothérapie, on sait qu'il y a des pics au niveau des globules blancs et que les médecins, ils nous disent, oui, là, c'est le bon moment, ou là, surtout, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas qu'elle sorte de chez elle déjà, il ne faut pas qu'elle attrape un rhume, il n'est pas question d'aller lui tatouer les sourcils.
Jimmy ?
Une fois que le cancer est traité, la maladie n'est plus là, mais parfois le corps n'est plus le même. Et du coup, on aimerait parfois retrouver ce corps qu'on avait avant la maladie, mais sans la maladie. Et vous proposez aussi d'agir sur les cicatrices l'opération ?
Alors les cicatrices, ça peut être plein de cicatrices. Ça peut être les cicatrices du cathéter, ça peut être
au niveau de la clavicule en général,
tout à fait. Ça peut être les cicatrices tout simplement de la mastectomie, parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de femmes qui passent par cette amputation du sein. Et dans ce cas-là, vous retrouvez, c'est pas mes mots, c'est les mots de mes petites clientes, vous retrouvez avec des bosses. Alors les bosses, on sait très bien qu'il n'y a rien de féminin à avoir une bosse à la place d'un sein. Et du coup, elles sont très complexées, elles n'osent même pas se regarder dans le miroir. Et nous, notre travail, c'est de venir sublimer cette femme en lui redonnant la possibilité de se regarder et d'être heureuse en se déshabillant, tout simplement. Donc on fait les aréoles mammaires 3D, c'est-à-dire qu'on dessine comme un artiste, on va dessiner une aréole la plus ressemblante que celle qui est saine. Et quand il y a une bimastectomie, on vient redessiner deux aréoles. Il y a des fois des petites crises de fou rire. On choisit la couleur, on choisit la forme. Elles arrivent avec des seins, j'aurais comme ci, j'aurais comme ça. Et là, on sait que c'est la fin de la maladie. C'est des étapes qui sont assez incroyables à passer ensemble.
Quand vous avez terminé votre séance, que vous avez reconstruit une aréole,
c'est magique.
Ah ouais, mais vous devez avoir des réactions parfois dingues, non, avec les femmes.
C'est le moment qu'on attend. Et je peux vous dire, toutes mes élèves qui viennent et donc qui sont professionnelles déjà du maquillage permanent, mais qui viennent se former au programme Life Repair. Elles viennent toutes pour rechercher ça. Ça devient une véritable passion dans le sens où quand vous travaillez pendant une heure et demie sur une cliente et que quand elle se redresse, elle ne peut même pas cacher son émotion, elle fond en larmes de bonheur. bah voilà, il n'y a rien à dire, ouais. C'est magique.
Vous faites un beau métier, je crois.
C'est une satisfaction incroyable.
Pour terminer, je reste quand même sur les cicatrices. Donc là, on a parlé de grosses cicatrices, de chirurgie mammaire dans le cancer, mais on peut aussi avoir des cicatrices sur le visage, je sais pas, d'un bec de lièvre ou d'autres choses. Vous pouvez agir là aussi? Qu'est-ce qu'on pouvait faire?
Alors tout à fait, sur les fentes labiales, on peut travailler sur tout ce qui est dessin, des symétries, si jamais il y a des problèmes, parce que souvent, c'est difficile après une chirurgie, parce que souvent, c'est 5-6 chirurgies pour avoir une belle lèvre. Donc on retravaille les symétries, on retravaille les couleurs, on travaille les cicatrices, on peut travailler les cicatrices de lifting. Un chirurgien, quand il opère, il a beau opérer excellemment bien, il ne remettra jamais la mélanine sur la peau qui a été coupée, lésée. Donc on vient remettre, encore une fois, avec des pigments chers, comme un fond de teint. On vient mettre de la couleur sur les cicatrices blanches.
Jimmy ?
Les chirurgiens esthétiques ont une obligation de résultat. Vous, est-ce que vous leur promettez quelque chose ? Un pourcentage de réussite, un avant-après pour leur dire voilà ce qu'on peut espérer et voilà ce que
tout
vous allez
fait,
avoir.
Tout à fait.
Vous ne leur promettez pas la lune non plus parce que vous ne pouvez pas revenir à une peau comme elle était avant.
Non,
c'est
jamais, jamais. Ça serait pire que tout que de promettre quelque chose. Non, jamais. C'est-à-dire que je leur demande de m'envoyer un mail avec leur photo et je leur envoie toujours un pourcentage. Ça peut aller de 20% comme ça peut aller à 90%. Il n'y aura jamais de 100% parce qu'on ne peut pas rentrer dans la tête des gens. Ils peuvent des fois être insatisfaits. Et ce qui est incroyable, c'est que même parfois quand on promet 20%, il y a des gens qui me disent ça sera toujours mieux. 20%.
Ah ouais. Merci beaucoup Maud Ravier d'être venue sur notre plateau nous expliquer tout ce qu'il est possible de faire grâce aux techniques de maquillage permanent. On a compris que ces soins esthétiques contribuent aussi à réparer les femmes qui viennent vous voir de l'intérieur finalement. On répare l'extérieur et l'intérieur, notamment celles qui ont été atteintes d'un cancer. Merci encore, vous êtes donc la fondatrice de Maud Dermato-Esthétique. Si ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à aller sur votre site internet. Merci.
Oui, merci beaucoup à vous pour l'invitation.
Europe 1. Mélanie Gomez.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler de l'AIT, l'accident ischémique transitoire. Ce n'est pas un AVC, mais attention, cela peut parfois être une alerte neurologique. On vous expliquera tout. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui on parle de l'AIT. Savez-vous ce qu'est un accident ischémique transitoire? Ça se passe dans le cerveau, mais quelle est la différence avec un AVC? Savez-vous quels sont les symptômes? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
AIT, je vois pas du tout ce que ça peut être.
Ah, AIT. AVC, c'est accident vasculaire cérébral. Donc AIT, accident ischémique...
C'est un accident ischémique transitoire.
La personne, elle s'écroule. Bah, je pense qu'il y a des symptômes au niveau du visage, au niveau de paralysie de membres, des choses comme ça.
Donc en général, quand on a des AIT, ça va être juste une période très transitoire où on va avoir comme des petits symptômes de l'AVC.
Ils sont plus à même de parler, qui sont obligés d'être dans un siège roulant parce qu'elles ne peuvent plus marcher. Ouais, c'est très très grave.
Difficulté du langage, des paralysies souvent que d'un côté du visage par exemple, une douleur à un bras.
Le flux sanguin du coup, il faut le rétablir. Je pense qu'en fait ça doit être des caillots qui se mettent dans des veines ou des artères ou des choses comme ça et ça bouge. Et comme ça bouge, ben, y a une partie du corps qui se retrouve non irriguée.
Jimmy, on va faire ensemble un point sur ce qu'est un AIT, un accident ischémique transitoire. Expliquez-nous ce que c'est précisément et si c'est fréquent.
Alors en France, c'est 40 à 50 000 personnes qui ont un accident ischémique transitoire. Alors tout le monde commence à connaître les symptômes d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et ben pour un AIT, c'est exactement la même chose. La seule chose, c'est que ça dure moins longtemps, de quelques minutes à quelques heures, puis tout rentre dans l'ordre.
D'accord.
Néanmoins, il faut absolument consulter car il y a une véritable urgence derrière ce symptôme.
Vous dites tout le monde commence à connaître les symptômes de l'AVC. Rappelez-nous quand même, ça fait jamais de mal.
Alors c'est l'apparition brutale d'un symptôme neurologique quel qu'il soit. C'est-à-dire que vous pouvez tout d'un coup avoir la main gauche ou la main droite qui devient engourdie. Vous dites c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir dormi dessus. Mm-hmm. J'ai l'impression que j'ai la jambe qui traîne. Bizarrement, j'ai du mal à trouver mes mots, à m'exprimer. Des troubles, on appelle ça une aphasie, un trouble visuel, un vertige d'apparition brutale. Donc tout déficit, tout signe neurologique qui apparaît brutalement doit absolument vous faire une seule chose, c'est d'appeler le 15. On ne se rend pas aux urgences où l'attente en ce moment est très compliquée, c'est toujours comme ça. Vous allez perdre du temps, on appelle le 15, il va évaluer la situation et si besoin, et si on estime que vous faites un AVC ou un AIT, on vous envoie en soins intensifs de neurologie
dans un centre spécialisé
pour traiter ça. Dans un centre de neurovasculaire pour savoir ce qui se passe et éventuellement traiter l'artère qui serait bouchée. Dans l'AIT, l'artère se bouche puis se débouche mais elle risque de se reboucher par la suite.
Et donc ce qu'il faut retenir, c'est très important, c'est que même si ces signes disparaissent au bout de quelques minutes, c'est quand même grave, il vaut mieux consulter au plus vite, donc via le 15, comme l'a expliqué Jimmy. On a justement posé la question au professeur Pierre Amarinco, chef du service de neurologie de l'hôpital Bichat à Paris. On écoute.
Il faut le voir un peu comme la fumée du volcan, hein, avant l'explosion volcanique. Il faut réagir tout de suite, même si on retrouve l'intégralité de ses fonctions. Mais c'est la même urgence, car l'intérêt de cet accident, c'est le symptôme d'alerte par excellence. Si on fait les examens complémentaires immédiatement, qu'on traite le patient immédiatement, on réduit de 80% le risque d'avoir le véritable AVC derrière.
Alors on l'a compris, il faut consulter assez vite après une suspicion d'AVC, d'AIT. Qu'est-ce que les médecins vont faire puisque l'accident, l'AIT, il est passé, donc l'AVC s'est débouché.
L'idéal, c'est d'être hospitalisé dans les 24 heures. Ça permet de diviser par deux le risque d'AVC dans les jours ou mois qui suivent. L'objectif, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous avez fait cette AIT. Parfois, ça peut être une hypertension artérielle qui serait mal équilibrée. Parfois, c'est une arythmie cardiaque. On en a parlé, des palpitations qui vont entraîner un petit caillot au niveau du cerveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la cause de l'AIT, les patients sont à très haut risque vasculaire. Ils ont entre 10 et 20% de risque de refaire un AVC dans les 3 mois qui suivent. Donc le but du jeu, c'est d'avoir ce qui se passe pour le traiter et empêcher la récidive. C'est une véritable urgence neurologique.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
15h-16h, même l'été, vous écoutez Sans Rendez-vous sur Europe 1 avec Mélanie Gomez. Comment mieux gérer les relations compliquées avec son ado? On retrouve Mélanie Gomez et la psychothérapeute Isabelle Filioza qui nous donne toutes les clés de parentalité positive.
15h-16h, Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Isabelle Filioza.
Bonjour Mélanie.
Ravie de vous recevoir sur ce plateau à nouveau. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit. On est ravis. Alors avant de rentrer dans des situations concrètes de conflits qu'on peut y avoir, qu'on peut vivre parfois au quotidien entre parents et ados, vous allez peut-être nous aider à nous apaiser, on va dire. Et vous dites, je crois que dans l'adolescence, ce qu'il faut comprendre quand on est parent, c'est que finalement dans le cerveau de nos adolescents, il se passe quelque chose de dingue. À ce moment-là, entre 12 et 17 ans, c'est l'ébullition.
Ah oui, tout à fait Mélanie. C'est complètement une transformation profonde. Avant, on croyait que le cerveau grandissait progressivement et que donc, ben voilà, on avait de plus en plus d'intelligence, de responsabilité, de capacité, etc. On pensait que c'était une croissance assez linéaire, de tout petit jusqu'à adulte. Eh bien, en réalité, pas du tout. Effectivement, il y a une croissance neuronale phénoménale depuis tout petit jusque vers 11 ans. Et puis là, c'est comme s'il y avait tellement de petits neurones dans tous les sens, des tonnes de réseaux, il y a toutes sortes de chemins. Et c'est comme si le cerveau se disait bah, « Ah, oulala, c'est un peu compliqué cette histoire, on va couper quelques branches, on va réorganiser tout ça, ils font des travaux. » Donc, des travaux pour créer des autoroutes, créer des neurones, en fait, des myélinisations, c'est-à-dire qu'il va y avoir des graines, une gaine de myéline qui va s'entourer autour des neurones pour faciliter le transfert de l'information. Donc, l'information va aller beaucoup plus rapidement, enfin, pas tout de suite. Pour l'instant, ce sont les travaux. Donc, oui, une grosse partie du cerveau est en remaniement profond.
Mais du coup, est-ce qu'un parent, il peut quand même faire confiance à un ado qui vit ce chamboulement cérébral? Parce qu'on se dit, bon, mais s'il n'est pas très stable là-dedans, là-haut, peut-être qu'on ne peut pas vraiment lui faire confiance, quoi.
Mais c'est ça, on peut vraiment lui faire confiance tout à fait sur le fait qu'il va probablement faire
une grosse bêtise.
Voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance, c'est un peu l'abandonner à ses impulsions. On a plutôt à le coacher, à l'accompagner, à l'aider à réfléchir, à se préparer.
C'est ça, Jimmy.
Justement, dans votre livre, vous racontez une anecdote en voiture lorsque votre fils vous dit « Maman, je vois en 3D ».
À 15 ans, tout d'un coup, il vous dit ça, ça veut dire quoi?
Ah oui, c'était surréaliste. J'étais en train de le conduire en voiture et tout d'un coup, il me dit ça. Et puis, je dis « C'est-à-dire parce que tu ne voyais pas comme ça avant ?» Enfin, je trouvais ça normal de voir en 3D. Et puis, il me dit « Mais non, parce qu'avant... » Eh bien, je voyais finalement en 2D, je voyais les choses se dérouler les unes après les autres. Et maintenant, quand je vois une voiture, par exemple, devant nous, j'imagine en même temps ce qui se passe devant elle, sur les côtés, derrière. J'ai une vision grand angle. Et j'ai été vraiment impressionnée qu'il arrive à mettre des mots aussi justes sur ce que j'avais appris, moi, dans les études scientifiques, qu'effectivement...
Il arrivait à comprendre la complexité, en fait. C'est ça.
En fait, les zones associatives, les zones pariétales associatives dans le cerveau se développent à ce moment-là, se myélinisent.
À 15 ans, c'est ça.
Et voilà, les associations se font ce qui fait que du coup, le paysage prend d'autres formes. Mais c'est intéressant parce que nous, on ne mesure pas. On voit bien qu'il a les pieds qui grandissent, qu'il a les toiles qui poussent.
Tout ce qui est physique, on le voit.
Voilà. Mais on ne mesure pas à quel point, pour lui, à l'intérieur de sa tête, le monde change.
Jimmy ?
Comment on fait pour gérer les bêtises que l'adolescent va donc faire à cause de ce chamboulement neuronal ? Donc c'est bien
ces
beau,
impulsions,
mais concrètement,
là, qui contrôlent plus.
Voilà, on fait comment derrière nous pour essayer de limiter, on va dire, les dégâts ?
Alors déjà, on va pas seulement faire derrière, on va surtout faire en amont. Avant, on maintient un maximum d'attachement parce que quand même, les ados ne sont pas idiots. Et donc, s'ils perçoivent l'attachement et s'ils ne sont pas projetés vers faire une bêtise parce qu'on aurait interdit, parce que le problème, c'est qu'il y a des parents qui croient que si je pose un interdit, si je mets des limites à un adolescent, du coup, il va se tenir correctement. Ben, c'est exactement le contraire, en fait.
Mais lui dire, si tu vas cette soirée, tu ne bois pas, on est d'accord, promets-moi que tu ne fumeras pas, ça ne sert à rien ?
Si, ça va faire qu'il va probablement fumer davantage et boire davantage.
Vous avez vu, on n'a pas la bonne méthode.
Il y a un impact. Du coup, il a ça en tête. Mais, et surtout, si on lui donne un ordre, on lui demande quelque chose, il est piégé parce que du coup, il se dit, si je fais ce que maman ou papa me dit, eh bien, je suis le petit enfant de sa maman. Et donc non, il veut grandir, il veut être fier de lui.
Et si on ne veut pas qu'il fume, mais on ne veut pas qu'il boit, on fait quoi alors ?
Alors on muscle son cerveau, c'est-à-dire on va l'accompagner. On ne lui fait pas confiance en lui disant « j'ai confiance en toi, je sais que tu ne vas pas le faire ». Si on lui dit « bon, si ton copain Max te propose un verre d'alcool et une cigarette, qu'est-ce que tu fais ?» Évidemment qu'il va nous dire « oh, j'en prends pas, maman
!» Vous faites bien l'ado.
On s'arrête là. Si on s'arrête là, c'est sûr qu'il va quand même le faire. Il n'a pas... Donc, on sait que le cerveau préfrontal, là où on prend les décisions, c'est en travaux. En travaux ne veut pas dire que c'est complètement bloqué. Donc, je vais muscler ce cerveau préfrontal. Donc, je lui dis « Ok, ton copain Max, il te propose un verre d'alcool. Donne-moi 10 possibilités. »
Ah, c'est génial.
Une possibilité. Ah oui, tu peux le... Hein. Mais, et on fait attention que parmi les 10, il y ait aussi « je bois cul sec ». Voilà, il faut aussi qu'il y ait les options négatives.
On lui dit « voilà, essaye de voir 10 possibilités, 10 possibilités de choses que tu pourrais lui répondre. »
Voilà. Voilà. Donc, et ensuite, donc là, et puis on s'arrête là.
C'est tout.
Une fois que lui, il est en soirée, Max lui propose un verre, il a les 10 possibilités qui s'ouvrent dans sa tête. Donc, il est capable de réfléchir. Et comme il n'est pas idiot, de temps en temps, il va boire. Mais la plupart du temps, il va quand même prendre une option qui sera une option dans laquelle
plus
il
safe.
Se respecte. Oui, tout à fait.
Bon, c'est pas mal, c'est une bonne astuce, ça, Jimmy. Retenez, on a des enfants petits encore, mais ça peut nous servir dans pas longtemps. Merci beaucoup, Isabelle. Nous allons continuer cet entretien dans quelques minutes. On reste ensemble.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, c'est la psychothérapeute Isabelle Filioza. Alors Isabelle, l'adolescence, les prémices en tout cas, ça peut démarrer très tôt, à 11 ans, je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, on peut se retrouver donc face à un pré-ado, je parle en connaissance de cause, j'en ai un de cet âge-là à la maison, qui tout d'un coup, pour nous, ben, il s'en fiche et il jure que par sa tribu. Par exemple, ils ont un truc qu'ils font beaucoup, je trouve, moi les enfants de 11 ans, ils veulent plus jamais s'habiller. Ils sont toujours à poil, ils veulent pas mettre de manteau. Enfin moi, c'est une guerre de tous les jours, ça c'est normal à 11 ans.
Oui, c'est naturel. Mais Mélanie, c'est pas seulement parce qu'il veut être comme sa tribu, c'est vrai aussi.
Et parce que quand je regarde ses copains, ils sont tous à poil, hein, effectivement, ils n'ont pas de manteau.
Mais ils ont aussi tous le même âge et donc tous un peu la même physiologie, le même métabolisme. Et c'est vrai que nous avons tendance, nous, adultes, à projeter ce que nous ressentons. Or, notre métabolisme est bien ralenti par rapport au leur. Eux, ils ont encore beaucoup de ce qu'on appelle la graisse brune, et donc qui leur permet d'avoir chaud finalement. Ils n'ont pas du tout le même rapport.
Quand il me dit j'ai chaud, c'est qu'il a vraiment chaud.
Oui, probablement. Et s'il avait froid, eh bien, en plus, il court hein, probablement
tout
dans
le
la
temps
cour.
Du foot, voilà. Du foot, c'est ça. Donc, s'il ne met pas son manteau dans la course,
général,
c'est pas grave.
De manière générale, si on regarde les footballeurs, ils ne sont pas avec le parka, le bonnet.
Donc, j'arrête de vous l'assister pour le manteau alors.
On peut, là-dessus, vraiment, on peut leur faire confiance. Ils ne sont pas idiots. Mais c'est vrai que, par contre, ils vont vouloir tel t-shirt ou telle chaussure en fonction de ce que les autres demandent. Là, on peut négocier, les aider à voir comment ils peuvent se relier aux autres sans forcément être soumis aux critères sociaux.
Ouais, à 11-12 ans, c'est vrai que ça commence là. Ils veulent tous les mêmes baskets, par exemple.
Et oui, et ça, ce serait
à l'école
de gérer.
Est-ce qu'on doit répondre à ça ? Parce qu'on ne peut pas qu'ils soient non plus différents. Parce qu'il a dit, mais ils les ont tous, et moi, je ne les ai pas. On fait quoi ?
On l'aide à réfléchir. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'avoir les mêmes chaussures pour te sentir appartenir au groupe? Finalement, ça sert à quoi d'avoir les mêmes chaussures? Regardons, pour quelle raison est-ce que... regarde, l'équipe de foot, ils sont tous une même couleur. Oui, c'est pour dire qu'ils font partie de ce groupe. Donc, on l'aide à réfléchir à la dimension même de la socialisation. Et donc, on lui dit, c'est naturel et normal d'avoir envie d'être comme les autres pour sentir que tu fais partie d'eux, mais quelquefois, tu as aussi droit d'avoir ton individualité. Et c'est vraiment, l'identité, c'est une gestion entre qu'est-ce que je fais pour montrer que je fais partie du groupe et puis qu'est-ce que je fais pour affirmer qui je suis, moi.
Jimmy ?
Et c'est grave si on cède et que finalement, il a les mêmes baskets que les autres. Une fois qu'on l'a fait réfléchir, est-ce que ça rend un enfant qui serait un peu mouton comme les autres, le fonctionnement normal, est-ce que ça fait un adulte peut-être un peu différent ou au contraire, c'est pas si dramatique, on va dire, la lutte des baskets n'est peut-être pas...
En fait, le problème, c'est l'idée de lutte et l'idée même de céder. Je ne suis pas trop pour céder quoi que ce soit, mais pour dire oui, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison non plus d'empêcher qu'il ait les mêmes baskets que les autres, juste pour le plaisir d'empêcher qu'il ait les mêmes baskets que les autres. C'est-à-dire que, mais on ne va pas être dans une dynamique de « je cède ». Sinon, on a une mauvaise estime de nous-mêmes en tant que parents. L'enfant a l'impression qu'il nous a fait céder. Enfin non, sortons de ces jeux de pouvoir. Élever un enfant, c'est l'accompagner dans son développement. Ce n'est pas jouer un jeu de pouvoir avec lui.
Et alors, les accompagner justement dans leur développement, dans la bienveillance, évidemment, parfois ça passe... moi, je sais que j'adore parler de lui en public, quand il fait des choses bien, dire qu'il a eu des bonnes notes.
Ah ouais, mais
tout
lui,
ça.
Il n'aime
pas.
Alors,
il ne supporte plus ça. Non, mais avant, il était très content quand je racontais tout ce qu'il faisait de bien. Mais là, à 11-12 ans, ils n'ont plus du tout envie qu'on parle d'eux. Mais pourquoi même quand c'est pour dire du bien? C'est bizarre.
Eh bien oui, mais c'est chouette de l'avoir repéré, Mélanie, parce que voilà, nos enfants nous montrent les limites, là. Ils deviennent autres, ils deviennent des individus à part entière.
Arrête de raconter ma vie, il me dit.
Exactement.
Oui, mais sa vie, c'est un peu, il fait partie de la mienne aussi, non?
Et oui, c'est une grande frustration, c'est sûr, de les voir grandir comme ça, voilà. Et oui, c'est comme
Donc
ça.
Donc je dois arrêter, on doit arrêter de parler d'eux quand ils se...
On doit, ben ça dépend. Est-ce qu'on désire... Qu'est-ce que je désire faire? En fait, ce que je veux réellement, c'est qu'il s'épanouisse. Hein. Et donc, je peux parler de lui quand il n'est pas là.
Allez, on va faire ça. Jimmy ?
On passe à 13 ans, l'âge où les hormones sexuelles commencent un peu à travailler les adolescents. Alors, c'est une période qui peut être un peu compliquée, d'autant plus que l'adolescent peut être un peu cyclotimique, hein, son humeur est un peu instable. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça ?
Mais déjà, on le mesure. On réalise que les comportements très brusques sont probablement liés aux hormones. Alors, ce n'est pas seulement lié aux hormones, c'est lié aux hormones, c'est sûr, plus à la modification du cerveau et à tout ce qui se passe et qui est difficile à gérer. C'est comme si le gamin, il se retrouve avec... il a une Ferrari, mais il n'a pas encore le permis de conduire. Quoi. Donc, le moindre truc, il appuie un tout petit peu sur l'accélérateur, c'est parti. Et puis tout d'un coup, bref, c'est un peu ça. Donc, notre job, c'est de lui apprendre à conduire. Donc, on est là, on coach, on accompagne. Quand c'est vraiment trop fort, on laisse, c'est pas la peine, c'est pas le moment d'intervenir.
On change de pièce.
Voilà.
Parce que des fois, on a la tendance à être dans la surenchère. L'enfant qui se met à crier, on va crier plus fort que lui pour lui dire, écoute, c'est moi le...
Sauf que, Jimmy, nous, on n'est pas le gamin. Nous, normalement, on est l'adulte, théoriquement. Oui, voilà.
Vous prenez des cours maintenant, c'est bien, Jimmy. Comme ça, vous serez pas...
C'est vrai, on peut essayer de vouloir asseoir son autorité par le cri et pas une relation de force sans agressivité.
Ça ne sert à rien, on est d'accord ?
Non, ça ne sert à rien, mais c'est vrai qu'on a tendance à faire ça, malheureusement, parce qu'on est pris, on a l'impression que... Voilà,
oui, et puis des fois, ils nous disent des choses très dures, les ados. Alors moi, j'en suis pas là du tout, je ne parle pas de moi, mais moi, j'ai déjà vu des adolescents dans des scènes avec des amis ou quoi, qui disent « Tu m'as jamais aimé !» Enfin, ils nous disent des trucs horribles. Non, mais c'est vrai, on le voit dans les films aussi, les ados peuvent être très difficiles. J'ai vu des copines pleurer avec leurs enfants ados qui leur disent des choses très méchantes.
Elles pleurent parce qu'elles n'ont pas lu le livre. Parce qu'en fait, c'est tellement...
Votre livre, c'est On ne se comprend plus. Chez les éditions JC Lattès, on rappelle.
Voilà, parce que c'est tellement fréquent. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a dans le cerveau un élagage. Comme quand on élague un arbre, on coupe. Mais pour élaguer, on reprend la branche. Donc, l'enfant revient en contact avec toutes sortes de souvenirs de choses qui étaient enfouies. Mais il n'a pas évidemment la maîtrise, pas la compréhension de tout ce qui se passe. Mais des sentiments, des impressions du passé ressortent. Donc, quand il dit « tu m'as jamais aimé », on saisit le truc au vol.
Et on dit quoi ?
Eh bien, on lui dit « ah bon ? T'as eu l'impression de ça ? Raconte-moi. » Prenons un petit moment, tous les deux, parce que si tu le dis, c'est que tu as ce sentiment dans ton cœur. Et comme je n'ai pas envie que tu aies ce sentiment dans ton cœur, alors Dis-moi.
Parlons-en. Oui.
Et je pense que tu ne fais pas référence à ce que tu vis aujourd'hui. Peut-être que ça fait référence à ce mois que tu as passé à l'hôpital quand tu étais tout petit.
Ou quand ta petite sœur est née.
Voilà, tout à fait.
C'est souvent
et donc,
ça,
c'est l'occasion de réparer des blessures anciennes.
Quand il y a la crise vraiment qui arrive très loin, où l'enfant nous dit quelque chose d'horrible, effectivement, il faut creuser. Ce n'est pas lié au moment, en fait. Hein, souvent,
voilà. Ouais. Soit c'est lié à l'élagage, soit c'est une demande d'aide. Parce qu'ils vont au lycée, ils vont au collège, et là, ils entendent toutes sortes de choses qui les blessent. Et quand un enfant est blessé par une insulte, par exemple, il garde l'insulte à l'intérieur, même s'il a entendu quelqu'un le dire à quelqu'un d'autre, ça lui a fermé, il ne sait pas quoi faire avec. Donc il le garde à l'intérieur, il le garde à l'intérieur. Quand il voit sa mère, paf, il le jette sur sa mère. Mmh. Mais donc c'est pour ça qu'il nous dit des trucs absolument horribles, mais qui n'ont rien à voir avec nous en réalité. C'est juste parce qu'il nous fait confiance, nous sommes la figure d'attachement, et donc il va nous dire à nous ce qu'il porte à l'intérieur sinon et qu'il garderait, qu'il lui ferait mal.
Jimmy ?
Certains adolescents se mettent à mentir, et puis surtout on s'en rend compte. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'ils nous disent « j'étais à la bibliothèque » alors qu'en fait ils étaient en train de jouer au foot, ou au contraire « j'étais avec Max » alors qu'en fait pas du tout.
On a eu les parents de Max et ils n'étaient pas du tout chez Max.
Une fois qu'on les a pris en flagrant délit de mensonge, qu'est-ce qu'on fait ?
On peut leur demander pour quelles raisons ils éprouvent ce besoin de mentir, ce besoin de... Alors, le mot mentir, tout de suite, ça va déclencher des réactions. Donc,
tout à fait la vérité,
voilà,
c'est ça.
Voilà, dire qu'est-ce qui fait que tu ne me dis pas ce que tu as réellement fait alors que tu sais que probablement je vais le vivre. Le pic du mensonge, il est plutôt vers 9 ans. À 9 ans, les enfants explorent le mensonge parce que ça montre que... Oh, papa, maman, ils ne sont pas à l'intérieur de ma tête. Je peux exister, ils peuvent ne pas tout savoir. Donc, c'est une
génial.
Exploration comme ça.
Ça, c'est à 9 ans, le pic.
Voilà.
Jimmy, il est resté bloqué à 9 ans.
Oui, c'est ça. Je pense que voilà, malheureusement, voilà, toutes les étapes en fait, sont bloquées chez moi là, à 9 ans. Le mensonge. Voilà.
Quelque part, c'est tout bloqué un peu chez
moi. Non, mais je plaisante, évidemment. Jimmy n'a pas de problème avec ça.
Donc, les adolescents, c'est un petit peu autre chose, peut-être, en plus de cette idée-là. Mais il y a quand même encore cette idée-là, c'est qui je suis en dehors du regard de mes parents. Et comment est-ce que je peux devenir quelqu'un. Et donc, il y a tout un besoin. De la même manière qu'ils ferment leur porte à clé, ils ont besoin de fermer une partie de leur vie.
Ils ont envie qu'on ne sache pas des choses, en fait. C'est
voilà.
Ça. C'est pas tellement du mensonge, en fait. C'est ça.
C'est ça.
C'est une façon de s'autonomiser, en fait, de mentir un peu pour
tout
eux.
Tout à fait. Ouais. Après, ils peuvent mentir parce qu'ils craignent des punitions. Ils craignent des... Voilà. Donc, évidemment, si on a une mauvaise relation avec ses enfants, si on est dans le conflit, si ça se passe mal, ils risquent de mentir pour ça.
Vous parlez de punitions, mais il y en a qui aiment les punitions, j'ai l'impression. Des garçons, souvent, on voit ça, qui, finalement, ça les rend un peu... ça les rend caïds à l'école. J'ai été puni, ouais, parce que j'ai fait le mur, tout ça.
Exactement.
Il y en a qui aiment ça. Hein, ouais.
Exactement. Et des études ont été menées pour mesurer ça. Et effectivement, un adolescent de 15 ans, lorsqu'il est puni, il augmente sa cote de popularité. Il double ce nombre de petites copines.
Mais
on
non.
peut les comprendre. Donc voilà, il y a son statut social qui augmente.
Ah oui.
Tout le monde l'admire. C'est ça, il fait le caïd. Et malheureusement, et c'est là que nous sommes responsables, parce que nous les avons élevés dans une société dans laquelle le caïd est plus admiré, plus respecté. On lui montre toutes sortes de films où il faut faire le plus fort. Enfin bref, voilà.
Jimmy.
Adolescence rime souvent avec crise du rangement. Lorsque c'est un peu l'apocalypse dans leur chambre, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit lutter contre ce bazar, alors qu'ils arrivent à vivre ou à survivre dans ce milieu hostile ? Ou est-ce qu'on doit, par exemple, moi ça me passe par la tête parfois, de jeter leurs affaires en disant « vu que c'est pas rangé, bah ça va à la poubelle ».
Alors on peut s'interroger sur pour quelles raisons ça nous exaspère autant, alors que très probablement, nous au même âge, on a fait pareil.
Jimmy, vous étiez très ordonné à l'adolescence.
Non, mais je ne suis toujours pas à 33 ans, donc je vais essayer de faire cette étape. En fait, toutes les étapes là, c'est pour moi.
En fait, déjà, une première chose qui peut nous rassurer, c'est que pourquoi est-ce qu'il ne range pas ? C'est y a plusieurs choses qui se passent à ce moment-là. Déjà, quand on voit que c'est répandu dans la population d'un même âge, c'est que c'est probablement pas une pathologie, mais davantage quelque chose qui est inhérent à cette étape de développement. Donc, laisser les choses un petit peu partout, ça a plusieurs fonctions. Alors, la fonction très animale de laisser des traces.
Ah oui, hein,
voilà, donc les filles qui laissent la tasse de thé un peu partout, voilà, toutes les affaires.
Oui, parce que d'ailleurs, quand ils ne rangent pas, ce n'est pas que dans leur chambre. Des fois, ils en laissent traîner de partout dans la maison. Hein, ouais.
Mais c'est l'époque du territoire, quoi. Donc, ils marquent leur territoire et ils mettent des trucs un peu partout. Donc, ils s'installent. L'autre chose, c'est que quand les choses sont sorties, elles sont disponibles, on les voit. Et du coup, on peut y réagir. Et c'est pour ça, en fait, que ça développe l'intelligence, surtout sur les plus petits aussi, parce qu'on a toutes les choses qui sont là. on les voit, on voit, on fait des liens entre les choses. Je vous rappelais tout à l'heure, j'ai dit que les zones associatives se développent. En fait, c'est ça, les ados font beaucoup d'associations entre les choses. Et le fait de voir plein de trucs divers et variés mélangés, là, il y a une culotte, un disque, un poupien,
moi, je qu'il y a, etc. Là, il y a le livre de maths, là, il y a le cahier de français, mais non, c'est plutôt souvent les culottes. Hein, mais...
Donc, tout ça, hop, ça fait des liens. Voilà, ça, ils sont en train d'organiser leur cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est que si ils vont dans un camp de je ne sais quoi, un truc
colo,
ouais. Ils vont avoir la médaille du rangement.
C'est vrai, c'est
donc,
vrai.
Donc, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de ranger, c'est qu'il y a une fonction à cet apparent désordre. Ce qui est important, c'est qu'ils ne perdent pas leurs affaires. Est-ce que si je lui dis où est ta trousse rose, immédiatement, ils savent la trouver sous un tas de trucs ou pas ? S'ils ne savent pas la trouver,
ça, c'est plus embêtant.
C'est plus embêtant. Donc là, on va les aider. On va les aider dans les stratégies de rangement, etc. Mais s'ils savent, bon, c'est qu'ils maîtrisent le truc.
Merci beaucoup, Isabelle Filiosa, d'être venue sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre pour ceux qui auraient envie d'en savoir encore plus. On ne se comprend plus aux éditions J.C. Lattès. Alors, on pourrait en parler des heures avec vous. On pourrait faire 10 émissions. Vous reviendrez, bien sûr, nous donner encore d'autres conseils pour mieux gérer nos ados. Encore une autre fois, merci encore.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, c'est la sexo avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de pilosité féminine. Elle répondra à un jeune homme qui a quelques problèmes de libido depuis que sa copine ne s'épile plus. Pas de jugement, bien sûr. Chacune fait comme elle veut, mais on répondra à ce jeune homme.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui arrive dans ce studio. Catherine Blanc, psychanalyste,
oui,
voilà, et sexologue à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie. Bonjour.
Alors,
Jimmy.
Aujourd'hui, Catherine, on a une question de Fabien. Je vais vous la lire tout de suite. Voilà un an que ma copine s'est laissée pousser les poils aux jambes au nom du féminisme. Elle ne m'a jamais vraiment demandé mon avis. Sur le principe, je n'ai rien contre, mais cela a tendance à diminuer mon désir sexuel envers elle. Que dois-je faire ? Alors Catherine, pourquoi les hommes, de façon générale, n'aiment pas les poils aux jambes des femmes ?
Alors, d'abord, c'est une histoire de mode, hein, parce qu'il fut un temps où la question ne se posait évidemment pas, et heureusement pour Madame de Cro-Magnon. Bon, il y a bien sûr la culture de l'épilation de longue date, notamment avec le sucre, le miel, etc., qui s'est faite. Il y a eu même d'ailleurs des moments où on dégarnissait les fronts au nom de l'intelligence, selon les siècles, etc. Donc, il y a toujours eu des modes qui ont traité le cheveu, le poil, toujours au nom d'une certaine différenciation.
Et même en France, sur des périodes récentes, j'imagine,
absolument.
Dans les années 70, peut-être qu'on
allait... Exactement. Voilà. Alors, il y a toujours des idées, j'allais dire, politiques derrière, des revendications de genre aussi, puisque finalement, on a scindé l'idée du poil masculin, expression de la virilité, et d'un côté pour les hommes, et de l'absence de poil, expression de féminité, quand bien même les femmes ont des poils. Plus petit, plus fin, bien sûr.
Le poil n'est pas féminin aujourd'hui
C'est une lecture culturelle, donc ce n'est pas du tout un truc horrible. C'est simplement que culturellement, nous n'avons pas le regard accueillant du poil chez la femme. D'où, dans le féminisme, certaines qui vont revendiquer de le garder pour justement ne pas être coincées dans un devoir de satisfaire le désir masculin ou de se genrer de façon trop manifeste avec l'idée qu'il y a un traitement, voire douloureux d'ailleurs, pour se faire épiler, etc.
Alors Jimmy, je ne connais pas votre avis sur les poils féminins, mais vous avez une question.
Oui, je soutiens Fabien, évidemment. Je soutiens sa peine et son désarroi. Je comprends sa baisse de libido, pour être tout à fait honnête. Mais est-ce que ce n'est pas un féminisme un peu au rabais de se dire « Tiens, je vais me laisser pousser des poils ». Est-ce que vraiment c'est un combat, c'est vraiment une histoire de lutte entre la femme doit subir pour séduire l'homme ? Est-ce que ça va pas au-delà de ça ? La même façon que on fait attention à comment on s'habille, on se parfume, dans ces cas-là, ne faisons plus rien pour ne plus plaire à personne.
Oui, c'est sûr que, en fait, ce sont des débats qui sont des débats politiques, c'est-à-dire que chacune trouvera dans son expression féminine le plaisir d'être femme ou le devoir de revendiquer de l'être. Souvent, dans cette revendication, il y a souvent une revendication d'équité qui, du coup, se fait dans une masculinisation. Est-ce que c'est vraiment intéressant ?
Et qui s'entend, pourquoi pas, hein ? Cela dit, elles font ce qu'elles veulent, bien sûr.
Chacun
est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr.
Bien sûr. bien évidemment. Après, on peut toujours se poser. Je crois que qui que l'on soit et quoi que soit notre position, il est toujours intéressant de la questionner pour nous-mêmes, pour savoir vraiment à quoi l'on joue là-dedans. En l'occurrence, que cette femme ait décidé de se laisser pousser les poils.
Oui, là, on
ne donne
pas vraiment notre avis. On répond en tout cas à la question de Fabien qui dit que lui, il a moins de libido. Donc,
voilà. Alors d'abord, qu'elle ne lui ait pas demandé son avis, ben, on peut concevoir que son corps, c'est son corps.
Oui,
très
fait
bien.
Ce qu'elle veut, heureusement.
Donc jusque-là, encore une fois, et surtout si elle revendique un féminisme, elle ne va pas demander la permission, effectivement, ça se conçoit, la logique, en tout cas, on peut la comprendre. Après que ça inhibe sa libido, on peut aussi le concevoir, parce que justement, dans notre lecture que nous avons du féminin et du masculin, eh bien, on peut y entendre quelque chose de masculin, et peut-être a-t-il le sentiment à ce moment-là qu'il voit des jambes d'hommes dans son lit et que ça inhibe du coup son hétérosexualité, ou que ça l'angoisse d'avoir quelque chose qui s'apparenterait d'une manière ou d'une autre à une fantasmatique homosexuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est masculine, mais dans sa lecture,
on peut comprendre sa réaction. En
il
tout cas,
peut avoir
avec cette
le fantasme qu'il y a quelque chose du masculin qui s'invite dans son lit, ce qui inhibe sa libido.
Jimmy ?
À contrario, les hommes pourraient, on va dire, supporter un peu plus des poils au niveau du pubis. Pourquoi cette différence ? Pourquoi on accepte plus le pubis alors qu'on serait plus gêné par des poils au niveau des jambes ?
Peut-être parce que là, pour le coup, il y a de très 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 longues dates, pas de poils sur les jambes des femmes. Alors que le pubis, de toute façon, il y a une idée de toison, puisque le sexe féminin n'étant pas visible comme le serait un pénis, eh bien, la toison participe de d'une mise en scène d'un voile pudique posé sur un pubis, sur des lèvres, etc. Mais encore une fois, notre époque moderne a complètement enlever les poils du sexe féminin, c'est à se poser la question de la capacité à accueillir un corps pubère et chercher désespérément un corps enfantin dans ce sexe féminin sans poils aucun. Effectivement, ce sont des modes qui ont plus ou moins de temps long dans l'histoire, donc des esprits ou des regards que nous avons posés qui ont fait loi finalement. Et encore une fois, posons-nous la question de la légitimité de tout cela.
Juste pour terminer, Catherine, petite réponse à Fabien. Il doit faire quoi ? Il doit lui en parler ?
Il doit lui dire qu'il trouve ça, pour lui, c'est un peu dérangeant, qu'il préfère sans pour autant nier qu'elle est pleinement féminine et qu'elle n'est soumise à rien, et que peut-être elle pourrait trouver dans quelque chose d'autre.
Une demi-épilation, on ne sait pas.
Non, mais est-ce que c'est vraiment au nom du féminisme ou c'est par désinvestissement de son corps et donc du coup une désérotisation de la relation ? Ça peut être.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. On se retrouve demain pour les meilleurs moments de Sans Rendez-vous. Dans un instant, votre émission Et si on partait, avec Philippe Googler qui tous les jours vous fait découvrir une région et un pays. Belle aventure.